Racontez-nous Istres, Robert Strozzi des Amis du Vieil Istres. Non, Istres n'est pas qu'une ville nouvelle, en tout cas dans son histoire, puisqu'on peut remonter.
Pouh, alors on peut remonter jusqu'à quand 10 000 ans avant notre ère, c'est-à-dire 12 000 ans. Ouais. Des tribus nomades se sont fixées sous un abri sous roche, c'est l'abri Cornille. Un site qui a été fouillé d'ailleurs par les Amis du Vieil Istres, à l'époque c'était dirigé par le docteur René Bocquer, puis aussi par le CNRS. Un site qui s'est révélé d'ailleurs comme un gisement préhistorique de la plus grande importance.
Donc il n'y a pas que Lascaux, mais voilà. Il y a aussi Istres.
Voilà. Et alors un peu plus tard, 4000 ans avant notre ère, donc c'est toujours pareil, ça fait 6000 ans.
Donc on est à la fin du néolithique. Là,
voilà, hein. Une civilisation de chasseurs-pêcheurs s'installe sur la colline du Miouvin, qui surplombe l'étang de l'Olivier. Et là, alors, de nombreux outils en silex, en os, puis aussi même des récipients en terre cuite, y ont été découverts.
Ça veut dire que l'homme s'était sédentarisé,
déjà,
il avait pratiqué la culture et l'élevage.
C'est ça.
Dès la fin du néolithique.
C'est ça.
On avance un peu, on est sous l'Antiquité.
Alors,
là.
Sous l'Antiquité. Alors, depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est l'époque celto-ligure, jusqu'à l'aube du Moyen-Âge, des populations se sont installées sur un promontoire rocheux mais qui domine l'étang de l'Olivier. C'est l'oppidum du Castellan. Très riche. Hein. Alors, les Celto-Ligures, devenus les Gaulois puis les Romains, occuperont ce site sans interruption. D'ailleurs, de nombreux vestiges ont été mis au jour. Il y a des céramiques, des lampes à huile, puis de nombreuses monnaies romaines de toutes les époques.
Et il était où alors ? Il était où cet oppidum du Castellan ?
Mais il surplombe aussi l'étang de l'Olivier, mais de l'autre côté, par rapport au site du Miouvin.
D'accord, donc c'est près de la ville actuelle.
Près de la ville actuelle. Alors là, oui, c'est vraiment la ville actuelle, parce que l'oppidum du Castellan a connu une longue occupation. D'ailleurs, on peut dire que c'est ici qu'ont vécu les premiers Istriens.
Alors bientôt la Pax Romana, la paix romaine, mais elle ne sera plus qu'un souvenir.
Et oui, parce que c'est l'époque des grandes invasions barbares, alors germaniques et aussi sarrasines, ce qui va pousser la population à se mettre à l'abri dans ce qui constitue aujourd'hui l'actuel centre ancien.
Donc ça date de cette époque, du déclin de l'Empire romain, le centre ancien qu'on voit aujourd'hui.
Là, on est venu se réfugier à cet endroit.
Alors au Xe siècle, est bâti un castrum.
C'est ça, un castrum, une fortification seigneuriale sur le point le plus élevé. Et c'est à cette époque, d'ailleurs, que le village va prendre le nom de Istres. Donc, nous sommes bien sous le règne de Conrad le Pacifique.
Ah oui, le fameux, avec le Y à Istres. Istres. Et à partir de cette époque, Istres va peu à peu se construire autour de ce noyau féodal.
Voilà, d'ailleurs, la porte d'Arles, qu'on voit aujourd'hui, élevée au XVIIIe siècle, délimite l'entrée de l'enceinte médiévale. Alors, ça fixe bien l'ancien Istres, le vieil Istres.
Donc, les remparts à l'époque.
Les remparts.
Et la ville fortifiée ?
Eh bien, elle dépend de l'abbaye de Montmajour, que nous sommes d'ailleurs allés visiter récemment.
Et dont on consacrera une émission ce vendredi. Voilà.
Ah, mais c'est très
vendredi,
bien.
Vendredi, 13h30, racontez-nous l'abbaye de Montmajour.
Très bien.
En 1379, qu'est-ce qui se passe là, du côté du règne de la reine Jeanne de Naples ?
Bien, Jeanne de Naples a fait faire un inventaire, une enquête,
une enquête.
Bien délimiter ce qui appartient, qui appartient, par exemple, la tour d'Entrecin. Jeanne de Naples, je crois que l'enquêteur s'appelait Véran, mais je ne suis pas sûr, je crois que c'est Véran.
Mais en tout cas, c'était la comtesse de Provence.
C'est ça.
Et elle veut savoir...
Reine de Naples, comtesse de Provence.
À qui appartient quoi ?
Exactement. Et puis finalement, elle a décidé que c'était à elle. Voilà.
Ah bon.
Tout simplement.
Donc la tour d'Entrecin, la tour de la reine Jeanne. Voilà.
C'est ça, c'est ça.
Qui a gardé son nom.
Et puis alors, un peu plus tard, en 1476, Charles d'Anjou, qui était duc de Calabre, je crois que c'était le frère du roi René d'ailleurs, vend la seigneurie d'Istres et la tour d'Entrecin au sire Bertrand Foissart, qui était un riche commerçant d'Aix. Mais deux siècles plus tard, la seigneurie d'Istres et la tour d'Entrecin intégreront la principauté de Martigues. Alors une question se pose actuellement. Où pouvait donc être situé ce fameux château d'Istres, maison seigneuriale ?
Elle était où cette maison seigneuriale, Robert ?
Alors il semblerait... C'est presque une évidence, mais qu'il était situé à l'emplacement de ce qu'on appelle actuellement la terrasse, c'est-à-dire au côté sud de l'église Notre-Dame de Beauvoir, qui surplombe la ville.
Ah oui, tout là-haut, ouais, ça domine.
Voilà. Alors, bon, il faut savoir qu'aucun vestige de ce château ne subsiste aujourd'hui. Alors, au cours des siècles, cet emplacement a fait l'objet de nombreuses ventes à des particuliers. D'ailleurs, une tour aurait même été abattue pour faciliter le chemin vers l'église.
Et puis il y a eu un soulèvement populaire un peu plus tard. Là.
Alors voilà, après un soulèvement populaire, je crois que c'était le 28 septembre 1534, ouais. La maison seigneuriale et ses dépendances furent incendiées. Le château ne se relèvera jamais de ses ruines.
Vous continuez de nous raconter Istres à travers les siècles. Robert Strozzi, des Amis du Vieil Istres. Après la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, nous allons évoquer les temps modernes dans la suite de Racontez-nous.